Interview.
RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, et je suis en compagnie de Nathalie Groulard. Bonjour.
Bonjour.
Pour l'interview du jour, nous allons parler de la foire au Bélier qui se tiendra le 14 février à l'espace Soubéran à Cray. Nathalie, vous travaillez à la FDO?
Oui, voilà.
Fédération départementale ovine, qui est déjà plusieurs fois passée sur cette antenne, mais il est bon de rappeler un petit peu qu'est-ce que vous faites.
Alors, donc la FDO, c'est en fait la Fédération des syndicats d'élevage ovin de la Drôme. Donc, en gros, on est une fédération qui regroupe les syndicats, comme son nom l'indique, les syndicats d'élevage ovin. Donc, la principale mission, c'est de défendre les intérêts des éleveurs de moutons du département. Bon, pour ça, on a plusieurs dossiers sur lesquels on travaille, la PAC, les aides, la prédation, le sanitaire, etc. Et du coup, pour remplir un peu cette mission, on a plusieurs moyens. Et notamment, ça va être de participer à toutes les réunions où l'élevage ovin est partie prenante. On travaille avec les services de l'État, la préfecture, les DDT. On a aussi beaucoup de partenaires d'autres organismes professionnels agricoles comme la Chambre d'agriculture, le GDS. Voilà, donc le but, c'est un peu de fédérer toutes les énergies du département qui travaillent autour de la filière ovine pour accompagner les éleveurs ovins dans leur vie de tous les jours, dans leur élevage.
Ils sont connus dans le Diois, le syndicat ovin du Diois, pour l'organisation, par exemple, voilà, de la fête des chiens de berger.
Voilà, c'est ça.
Ils font partie de la FDO.
Voilà, le syndicat ovin du Diois est un des syndicats qui adhère à la fédération.
Alors, pour prendre exemple, ce syndicat va se réunir sur des questions et vous les remontez, ou c'est vous qui venez dans chaque syndicat pour avoir comme ça une... on va dire une photographie générale des éleveurs dans le...
Oui, voilà, on garde un lien avec chacun. On a, sur le département, il y a 7 syndicats locaux. Donc on garde un lien avec chacun d'eux. Ils sont organisés du coup par secteur. Il y a le syndicat des Géoules, de Les Héroubions, du Vercors, etc. Donc on garde un lien très très fort avec eux. Chaque année, on participe à leur assemblée générale, qui sont en fait des réunions de secteur et qui nous permettent de remonter tous les besoins d'accompagnement des éleveurs.
Quels sont les principaux besoins d'accompagnement ?
Je dirais que nous, là où on va se positionner, c'est surtout sur un accompagnement administratif. Donc ça va être de les aider à faire leur dossier pour les aides, pour les subventions, mais aussi s'ils ont tel et tel souci sanitaire, on va pouvoir faire le lien avec les organismes spécialisés comme le GDS. Donc voilà, ça va être principalement un accompagnement administratif.
La différence avec l'ADEME, qu'on reçoit aussi des fois de temps en temps ?
Alors l'ADEME est plus sur le pastoral, donc c'est-à-dire qu'ils vont vraiment gérer toutes les problématiques autour des alpages et des espaces collectifs.
Voilà, une fois que les brebis sont sorties des
voilà,
bergeries.
Voilà, c'est ça. Tandis que nous, on est plus en fait au niveau de l'élevage, de l'exploitation agricole.
Et vous précisément, Nathalie Groulard, c'est quoi votre métier ?
Alors bah du coup, moi je suis animatrice de la FDO, de la fédération. Donc il va y avoir, c'est assez diversifié. Va y avoir selon les périodes de l'année toute une partie, bon justement, de cet accompagnement administratif. Donc au mois d'avril-mai, je me déplace beaucoup sur les exploitations pour les aider dans leurs dossiers. Donc après, ça va être, comme je disais tout à l'heure, participer aux réunions avec la DDT, la préfecture, faire le lien avec la chambre d'agriculture, etc. Et ensuite, on a, pour pouvoir un peu, va dire, financer la structure, toute une partie des missions qui sont des missions au niveau régional, où ça va être de l'accompagnement globalement à la filière. Donc, par exemple, promotion des produits de l'élevage. Donc là, on participe, par exemple, à la fête de la transhumance, à la fête de l'agriculture, pour valoriser les produits de l'élevage ovin, pour favoriser des installations chez les jeunes. En élevage de brebis. Donc, par exemple, je vais faire des interventions. Là, depuis l'an dernier, je fais des interventions dans le lycée agricole pour leur montrer ce que c'est que le métier de l'élevage ovin, comment fonctionne une exploitation, dans le but de susciter des vocations chez les jeunes, en fait. Voilà, donc après, on va par exemple faire des visites d'exploitation chez un gars du Vercors, du Diois, pour lui montrer, voilà, il a telle et telle brebis, il fonctionne comme ça dans son exploitation. Voilà, donc ça permet d'avoir un lien qui pour nous est très important d'avoir un lien avec les jeunes futurs installés.
Et c'est nécessaire, faut remotiver à cette filière.
C'est
justement
nécessaire, justement, oui, parce que alors c'est le cas un peu dans toutes les filières. Il n'y a pas forcément que la filière ovine qui est touchée, mais on se rend compte que dans beaucoup de productions agricoles, il y a plus de départs à la retraite que d'installations. Alors, pour vous donner un chiffre, on a l'an dernier, on a quand même eu 10 installations sur le département de la Drôme, ce qui est relativement quand même un bon chiffre. Bon, malheureusement, pas assez pour compenser les départs à la retraite. Mais oui, effectivement, on a besoin de créer cet engouement et d'aller valoriser le métier auprès des jeunes.
Et qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait de nouveau un attrait sur la filière ovine, ou qu'est-ce qui fait peur
Qu'est-ce qui fait peur? Ben, je pense qu'on a l'argument qu'on va souvent voir, c'est que de plus en plus, maintenant, les jeunes, quand ils choisissent un métier, qu'ils sont au lycée, au collège, ou etc., ils ont besoin d'avoir un métier qui leur permet de dégager des loisirs. Et ça, c'est normal. On a tous envie d'avoir des week-ends, de pouvoir partir en vacances avec ses enfants, etc. Et bah, malheureusement, l'élevage, de manière générale, c'est quelque chose qui ne permet pas forcément ça. Et du coup, on a besoin de trouver d'autres méthodes, d'autres solutions en fait, à ça. Par exemple, il faut montrer que déjà, c'est un métier qui se modernise de plus en plus, notamment avec les boucles électroniques et les logiciels de gestion de troupeaux. Donc maintenant, on peut avoir son troupeau sur le smartphone, etc. Ça, c'est des choses qu'on montre aux jeunes. Mais par rapport au temps de travail, les éleveurs s'organisent de plus en plus, se regroupent en société, ce qu'on appelle le GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. Ça leur permet d'être 3 ou 4 sur une même ferme et de pouvoir se dégager. Bah voilà, moi, je prends un week-end par mois pour partir avec ma famille en vacances, skier, voilà, pour au moins prendre du temps. Et du coup, on en voit de plus en plus des exploitations comme ça où ils sont plusieurs associés. C'est une autre forme que l'exploitation familiale où il y a le mari, la femme et les enfants et tout le monde travaille là-dessus. Et finalement, le jour où on veut partir en week-end, on ne peut pas.
On peut casser une idée reçue. Lorsque les brebis sont en alpage, l'éleveur, il ne peut pas partir en vacances?
Alors, non, effectivement, bah ça, c'est un peu différent. En fait, justement, le fait de mettre les brebis en alpage, souvent, ça permet à l'éleveur de dégager du temps. Alors, d'une part pour faire les foins en bas, parce qu'en juillet, c'est la période des foins, et effectivement aussi bah, de pouvoir se permettre de partir en vacances avec la famille. Bon. Donc, c'est pas casser une idée reçue.
Non, c'est possible alors, donc.
Oui.
Et puis, alors, vous participez aussi, vous le disiez tout à l'heure, à l'organisation de grands événements comme la fête de la transhumance.
Oui.
Et la foire au bélier, c'en est une aussi.
Voilà, c'en est une aussi. Alors c'est un peu la foire au bélier, à la différence de la fête de la transhumance, c'est un événement qui va vraiment s'adresser aux éleveurs. Pour nous, la foire au bélier, c'est une rencontre professionnelle entre les éleveurs et les organismes agricoles. Donc c'est pour ça qu'on a un fort partenariat et qu'on compte beaucoup sur des structures comme la Chambre d'agriculture, les coopératives d'aliments ou coopératives d'agneaux comme l'Agneau Soleil, mais aussi le GDS, les signes officiels de qualité, donc les organismes qui gèrent le label rouge. Et ça, du coup, c'est important pour nous d'avoir tous ces partenaires parce que ça permet de faire vraiment une rencontre professionnelle et ça permet de parler aux éleveurs de sujets techniques dont on ne parle pas forcément en dehors. Quoi.
Par exemple.
Voilà. Et par exemple, ça va être sur le sanitaire. L'an dernier, on a parlé d'une maladie qui s'appelle la FCO, qui était en train de revenir en France, globalement. Voilà, et ça permet du coup d'alerter les éleveurs sur le fait qu'il faut prendre peut-être un peu des précautions sur la ferme. Mais après, il y a d'autres sujets. Il peut y avoir des sujets purement techniques, comme comment améliorer la productivité, mais aussi comment améliorer les conditions de travail, pénibilité du métier, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut aborder.
Oui, parce qu'une foire au bélier, on s'attend à ce qu'on échange des races, des sortes.
Alors, voilà,
qu'on booste son troupeau.
Oui, voilà, c'est vrai que le principal objet, c'est d'organiser cette vente de béliers pour que les éleveurs puissent acheter de la génétique comme des béliers plus classiques. Et effectivement, on en profite pour présenter un maximum de races différentes. Mais ça nous permet aussi de faire passer ces messages-là sur le sanitaire et de s'appuyer sur des personnes ressources comme le GDS, les vétérinaires, etc.
Voilà, c'est plus un support. Donc en fait, finalement, le public, il n'y en a pas
C'est pas forcément orienté grand public, alors c'est pas fermé,
oui.
Mais on ne fait pas forcément de publicité en ce sens. Après, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même intéressant pour nous de voir des... L'an dernier, je me souviens, il y avait un groupe de personnes qui étaient venues. Je crois qu'ils étaient vraiment en train de se balader par là et puis ils y sont rentrés parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la lumière, entre guillemets.
Ouais.
Mais du coup, ça nous a permis aussi de communiquer sur le métier et sur l'élevage, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'avantage de cette fête de la transhumance, par exemple, c'est d'en profiter
voilà.
pour communiquer.
Ah, du coup, la fête de la transhumance, voilà, c'est autre chose. Là, pour le coup, c'est vraiment orienté grand public. Et pour nous, c'est une tribune, en fait, pour pouvoir communiquer sur tel et tel sujet de l'élevage.
Parlons un peu génétique. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez un bélier quand on a un élevage?
Ça dépend. Je vais faire une réponse facile. Non, ce qu'on va chercher comme bélier, ça dépend vraiment des objectifs de l'éleveur.
Ici, par exemple, pour les éleveurs du Diwa, qu'ils cherchent majoritairement?
Voilà, ça dépend aussi. On peut avoir plusieurs cas de figure. Il y a soit l'éleveur qui va rechercher de la rusticité chez le bélier parce que le bélier va partir en alpage et il a besoin d'avoir un bélier qui soit résistant, qui ait des besoins alimentaires peu élevés. Donc on va prendre une race rustique comme le Mérinos ou le Préalpe. Après, on va avoir un autre cas de figure, un éleveur qui préfère avoir un bélier qui est très orienté sur les qualités bouchères. Et du coup, ça va être plus un Île-de-France ou un Berrichon qui va donner de la forme aux agneaux et de la conformation. Donc voilà, c'est très différent selon les objectifs de l'éleveur. Après, ce qu'on recherche de manière générale, ce qu'on recherchera toujours chez un bélier, c'est qu'il puisse être, comment dire, durable, qu'il puisse être assez solide pour pouvoir être sur l'exploitation plusieurs années, qu'il soit relativement résistant au parasitisme, à certaines maladies. Mais voilà, disons qu'il y a, en gros deux oppositions. Soit on veut un bélier rustique pour qu'il puisse survivre dans des conditions extérieures, soit on cherche un bélier de qualité bouchère qui va être peut-être un peu plus fragile, mais qui au moins va donner des agneaux très bien conformés et très bien payés, pour faire grossier. Hein.
Merci. Le bélier reste avec le troupeau tout, enfin non, j'imagine non, mais qu'à une certaine
Alors,
période.
En général, non, on le met effectivement qu'à une certaine période, ce qu'on appelle la lutte en termes ovin, termes brebis. Donc c'est la période de saillie en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça va durer un mois, deux mois, selon comment fonctionne l'éleveur. Où effectivement le bélier va être lâché dans les brebis, il va pouvoir saillir les brebis et après on le sort du troupeau.
Donc c'est une bête qui vit seule quasi tout le reste de l'année.
Oui,
et
c'est
qu'on
ça.
Peut garder plusieurs années comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ils sont seuls, ils sont entre eux quoi. Ils sont
entre
gars du coup.
Ouais.
Mais c'est vrai que vous soulevez un problème, c'est que notamment chez les éleveurs qui ont qu'une période de saillie, ce qui est pas forcément toujours le cas, mais ça peut arriver. Bah du coup, ça fait que les béliers, ils s'en servent un mois et demi dans l'année. Et puis après, les aux autres mois, il faut continuer à les nourrir, il faut continuer à les gérer, leur trouver un logement, etc. Et c'est vrai que chez certains éleveurs, ça peut poser parfois des problèmes de logistique, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Ça coûte cher, etc. Alors, il y a certains éleveurs qui se posent la question de les mettre en commun, du coup, de faire des troupeaux de béliers. Mais là, ça pose des problèmes de questions sanitaires. Parce que du coup, c'est des mélanges de troupeaux et on mélange des maladies. On ne sait pas exactement qui a, quoi. Voilà. Ça soulève d'autres questionnements. Quoi.
Zut. Ces béliers, comment on les sélectionne pour qu'ils arrivent dans une foire? Il y a des gens qui sont éleveurs spécialement de béliers?
Oui, voilà. Il y a des gens qui sont éleveurs sélectionneurs. C'est le terme, hein, qui travaillent beaucoup du coup sur la génétique. Donc on en a quelques-uns qui viennent à la... Il y en a un ou deux qui viennent à la foire. Après sur la foire, nous on fait pas que des sélectionneurs, il y a des gens qui sont pas sélectionneurs mais qui viennent quand même vendre leurs béliers et qui ont quand même des béliers de bonne qualité, hein, c'est pas forcément lié. Mais voilà, ces éleveurs sélectionneurs, ils vont faire un travail, ce qu'on appelle un travail de sélection génétique pour avoir les béliers qui ont justement les meilleures qualités, qui vont développer des qualités de valeur laitière ou des qualités de prolificité. Voilà.
Donc là on imagine des croisements parfois sur 2-3 générations pour obtenir... Un bélier
Oui, 2-3 générations, voire plus. Hein, les éleveurs qui sont sélectionneurs depuis 15-20 ans, ou voire qui ont repris le travail de sélection que faisaient leurs parents parce que le troupeau s'est transmis, il peut y avoir du travail de sélection génétique sur beaucoup, beaucoup d'années. Ouais.
Ouais. Et on peut donc vendre un bélier qui, lui, n'a pas forcément de qualité et il pourrait être acheté aussi.
Oui, ouais, voilà, tout à fait. Après, là, encore une fois, ça dépend des objectifs de l'éleveur.
Oui.
Parce que forcément, avec la sélection, vient un prix plus élevé. Les troupeaux sélectionneurs, ils vont vendre leurs béliers à des prix plus élevés, mais ce qui se comprend, parce qu'ils ont aussi des frais pour faire ce travail de sélection. Alors, ça se voit pas trop dans ce département, dans nos systèmes d'élevage ici, mais les éleveurs sélectionneurs souvent font de l'insémination artificielle, justement pour pouvoir réserver les meilleurs béliers sur les meilleures mamans et que ça fasse les meilleurs agneaux, etc. Donc du coup, bah, tout ça forcément, ça engendre des frais. D'autant plus qu'ils sont, par exemple, pour pouvoir sélectionner sur la croissance, pour avoir des béliers qui font des agneaux qui grandissent le plus vite, qui ont des bonnes qualités bouchères, les éleveurs sélectionneurs vont faire ce qu'on appelle le contrôle de performance. Donc en fait, on va peser les agneaux quand ils sont petits et quand ils ont 70 ou 80 jours, donc à deux intervalles, pour voir lesquels ont grandi le plus vite. Et c'est eux qui sont susceptibles d'être les meilleurs béliers, en fait. Et tout ça, c'est pareil, ça a des frais. Donc ils sont adhérents à un organisme de sélection, etc.
Oui, parce que du coup, il faut nourrir des agneaux, ce que d'habitude, on ne fait jamais. Hein. On les engraisse un certain temps, puis après, ils partent à la viande.
Oui, voilà.
Faut garder...
Voilà, en plus, quand on fait juste des agneaux de boucherie, on les nourrit pendant 3-4 mois, ou peut-être 5-6 mois au maximum. Mais après, si on veut faire un bélier de sélection, effectivement, comme on le vend à un an ou un an et demi, eh ben, y a tout ça de céréales en plus à payer.
Donnez-nous un ordre de prix pour un bélier de race.
Pour un bélier de race...
Sélectionné, super
alors,
bouché, tout ça.
Voilà, disons que le bélier bouché, donc si vous prenez une race Île-de-France ou Berrichon, pour un bélier sélectionné qui a de bonnes qualités génétiques, ça va être entre 5 et 600 euros.
Ah ouais, ouais.
En moyenne. On va tabler sur 500 euros. Après, pour les béliers rustiques sont en général moins chers, comme le Bérinos ou le Préalpe. Ça va se vendre entre 200 et 300 euros voilà, pour un bélier sélectionné. Après, les autres béliers, on va dire béliers de classiques, ils sont plus entre 200 et 300 euros.
Et vous parliez qu'on pouvait quand même apprécier un certain nombre de races différentes. On en a cité 4 là, mais il y a des béliers absolument délicieux. Moi, j'ai vu une fois, je vais peut-être dire une bêtise, Tone et Marteau, là, c'est un truc assez beau.
Oui, c'est joli, Tone et Marteau.
Ouais. Il y a d'autres sortes aussi comme ça. Si le public là, s'intéressait tout d'un coup pour aller voir une.
Oui, alors à la foire, on aura aussi, donc effectivement, le Tone et Marteau, il n'y en aura pas à la foire. Mais on aura du bélier de la race Mouré-Rousse. Donc Mérinos d'Arles, on l'a cité, mais il y aura aussi Mérinos précoce, qui est pareil, une race très très lainée, mais c'est pas exactement la même branche. Ensuite, on aura la race Hampshire, qui est une race anglo-saxonne, qui là est très orientée, est orientée plutôt bouchée, mais qui est quand même relativement rustique, assez résistant à l'extérieur. Ensuite, on aura aussi du Charolais, donc là, Charolais qui est une race 100% bouchère. Voilà ce que je peux vous dire. Après, oui, le Tone et Marteau, c'est une race qui se trouve beaucoup en Savoie, Haute-Savoie. Alors là, pour le coup, c'est une race très très rustique. Je vais citer le Préalpe, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure, qui est la race par excellence de la petite région.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est plutôt des béliers qui sont tournés quand même vers notre secteur, c'est pas.
Oui, tout de même, oui.
La filière laine, ça fonctionne selon vous? C'est quelque chose que vous relancez, que vous
on
a beaucoup parlé de
laine,
boucher, mais
La filière laine, c'est il y a des ça commence tout juste. Enfin, on émerge un peu dans ce travail-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Faut savoir que de toute façon, à la base, la laine, c'est pas le produit principal des exploitations ici. Mmh. Il y a quelques exploitations qui commencent à y travailler sérieusement sur la qualité de la laine pour qu'elle ait une meilleure plus-value et pour pouvoir revendre la laine pour qu'après elle soit filée de manière artisanale, etc. Donc il y a quelques personnes sur le département qui y travaillent. Nous, c'est vrai que c'est pas au niveau de la FDO, c'est pas une demande principale des adhérents. Mais on s'aperçoit que qu'en faisant juste parfois quelques efforts au moment du chantier de tonte ou de livrer la laine, d'avoir une laine qui est plus propre, de meilleure qualité, etc., qui n'est pas de la paille qui traîne dedans, qu'elle ne soit pas crotteuse, etc. Par un travail simple et une meilleure organisation du chantier, on peut déjà avoir une meilleure valorisation. On peut commencer à travailler dessus. Alors pour l'instant, les marchands sont un peu frileux à ça, parce que ceux qui travaillent de manière classique, ça ne les arrange pas de nous la payer mieux. Forcément, ça ne les arrange pas, eux, qu'on fasse de la meilleure qualité, parce que du coup, ils vont devoir nous payer mieux. Entre guillemets. Mais il y a quand même un travail à faire là-dessus et on commence à s'y pencher un petit peu. Ouais,
oui, parce que la plupart du temps, cette laine est à peine valorisée. On tombe parce qu'il faut le faire. Et puis,
ouais. Jusqu'à il y a quelques années, le prix de la laine payée à l'éleveur ne payait même pas la tonte. C'est-à-dire que c'était plus une charge pour les exploitants de devoir faire la tonte et revendre la laine. Et si on va encore quelques années en arrière, la laine, elle n'était même pas vendue. Elle était jetée dans un coin et c'était du déchet, quoi.
Ouais. On peut imaginer que des filières, notamment dans les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux isolants, qu'il y ait une revalorisation comme ça.
C'est un débouché aussi. Voilà, ouais, tout à fait.
D'une laine qui n'est effectivement pas forcément faite pour faire des habits. Mais...
À l'heure actuelle, ça coûte encore relativement cher par rapport aux autres isolants. Mais effectivement, il y a un débouché qui commence à émerger, ouais.
Tout à l'heure, vous aviez parlé, Nathalie Groulard, de relations aussi avec la région. La FDO est départementale. Les changements d'orientation politique ou les nouvelles orientations sur principalement les chambres d'agriculture, tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui vous a posé des problèmes?
Oui, ça a pu poser quelques problèmes parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on avait ces missions régionales qui nous permettaient un petit peu de financer la structure. C'est vrai que maintenant, avec la fusion avec l'Auvergne, on va de moins en moins avoir ces missions. Pour 2017, il nous reste encore un pied dedans, mais à l'horizon 2018, on n'y sera plus. D'autant plus que c'est pas encore construit, en fait, pour l'instant, même au niveau régional. Alors, la région aussi est déjà bien organisée, etc. Mais au niveau de la filière ovine, pour l'instant, on n'est pas organisé. Et c'est en 2018 qu'il y aura vraiment un programme commun entre l'Auvergne et Rhône-Alpes qui va émerger, où là, peut-être, on pourra se remettre dedans. Enfin, 2018, voire 2019. Oui, c'est vrai que pour l'instant, ça a eu des conséquences sur la structure. Mais bon, on a quand même réussi à retomber sur nos pattes et on va plus se reconcentrer du coup sur le département pour l'instant que la région.
Conséquences financières, conséquences sur les employés, tout ça.
Les employés, en fait, je suis la seule salariée, c'est rapide. Mais conséquences financières, parce que pour ces petites missions, on avait justement des subventions qu'on a perdues. Donc, comme je dis, il en reste encore un peu pour 2017, mais c'est vrai que ça a fait un trou dans la trésorerie et il a fallu trouver d'autres projets, d'autres solutions. Donc, on a interrogé un petit peu nos adhérents, savoir quels étaient les besoins qu'ils avaient. Et puis, il y a quelques projets qui ont émergé au niveau du département. Ouais.
Les nouveaux projets de la FDO, alors, quels sont-ils?
Eh bien, justement, alors bon, c'est encore un peu tôt, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais on a un projet avec le syndicat de la Clairette pour étudier la possibilité de mettre des brebis dans les vignes, de pâturer les vignes. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce que pour l'instant c'est encore en construction et on l'a pas forcément annoncé ni. Enfin voilà. J'en dirai pas plus, mais il y aurait cette possibilité là et on étudie les impacts, les conséquences, savoir si ça vaut le coup de le développer ou pas.
Ouais, mais c'est super intéressant, ça mettrait un autre décor dans ces vignes qui parfois sont bien
tristes,
car seules.
D'un point de vue environnemental, d'un point de vue même éthique pour l'image de la filière, ça a que des avantages. Quoi.
Puis ça s'appelle comment? C'est l'agroécologie ou un truc comme ça là,
Oui, c'est de l'agroécologie un peu. Ouais. Ouais.
Bon. Eh bien, merci Nathalie Groulard pour toutes ces informations. Foire du Bélier, donc le 14 février, Acré, Espace Soubéran, on n'a pas donné l'heure.
On n'a pas donné l'heure, ça commence à 14h30. Et il y a 75 béliers qui seront présentés, plus quelques agnels. Il y a quelques éleveurs qui amèneront des agnels cette année. Et juste, j'en profite deux minutes pour rebondir. C'est vrai qu'on parlait de la laine tout à l'heure. Justement, le jour de la foire aux béliers, on va organiser une démonstration de tri de la laine. Donc là, qui est aussi destinée surtout aux éleveurs, pour leur montrer, à partir de la laine d'une toison de brebis, comment on peut faire pour mieux la valoriser. Donc, il y a une question de tri, d'enlever tout ce qui est sale un petit peu. Mais il y a aussi, justement, comme je le disais, toute l'organisation du chantier, qu'on peut réfléchir de manière à avoir une laine de meilleure qualité et plus propre et qui, dans l'objectif, serait mieux payée. Donc ça, ce sera à 15h, 15h pour une démonstration du tri de la laine.
La FDO a un site internet, un endroit où on peut...
Oui, nous avons un site internet depuis peu. Alors, c'est pas un site internet, c'est peut-être un grand mot.
Bon, il y a une page.
C'est
quoi.
Une page, voilà. Bon, il y a plusieurs pages, mais c'est surtout une page pour pouvoir nous contacter. Donc oui, j'ai fait ça l'an dernier. pour l'instant, il y a pas, on peut pas dire que ce soit très très vivant parce que j'ai pas le temps d'y passer beaucoup de temps pour mettre les actualités, etc. Mmh. Mais on a au moins page contact et il faudrait que je vous donne l'adresse.
FDO 26, moi je crois. Hein.
Oui, je pense que c'est ça parce qu'elle elle a changé en fait, mais oui, c'est sur Wix.
Bon, mais je vais le trouver et je le mettrai sur la page de cette émission, il n'y a pas de problème. On va se retrouver la prochaine fois, je pense, autour de la transhumance, a priori. Donc d'ici là, bonne foire et bonne suite à la FDO.
Merci à vous, bonne continuation.
Ok, de bail. L'interview du jour.